enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia. Gloire à Dieu.
Alléluia.
Amen, amen.
Ah, frères et sœurs, il est bon
d'être
dans les mains du Seigneur. Il est bon de connaître sa parole. La vraie parole qui nous change. La vraie parole qui nous transforme. Pas des histoires, des contes, des fables. Mais vraiment des choses qui sont de la parole. Parce que quand nous comprenons cette parole, que nous attachons à cette parole, que nous pratiquons cette parole, alors nous voyons la bénédiction. Et c'est ce qui est important. Parce que c'est le reflet. Plus on est béni, plus c'est le reflet de ce que Dieu fait pour nous. Donc nous brillons de sa gloire. C'est important, frères et sœurs. Plus tu es béni, plus quelqu'un voit comment tu es béni.
Il
se dit, mais c'est formidable. C'est grâce à Dieu tout ça.
Et
la personne a envie de connaître le Seigneur. La personne a envie de connaître le Seigneur. Alors que quand tu es tour dans tous les malheurs de la terre et que tu dis que Jésus est ton sauveur, ton Seigneur, que tu vas à l'église, etc.,
etc.,
les gens ne sont pas attirés. Ils ne sont pas attirés si tu es triste, si tu es malheureux, si tu es dans un tas de problèmes. Avoir des problèmes, ça arrive à tout le monde. Mais c'est comment tu vas gérer tes problèmes. Comment tu vas dominer tes problèmes. C'est ça qui est important. Des problèmes, nous sommes dans un monde où nous rencontrons des problèmes. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Mon sujet ce matin, c'est de vous parler des événements prophétiques qui vont survenir sur la terre et dont nous serons aussi des acteurs et des spectateurs. Un chrétien ne doit pas être ignorant sur ces événements prophétiques. Mais avant cela, vous devez comprendre quelque chose. Quand nous naissons de nouveau, eh bien Dieu nous donne un héritage, un héritage présent, mais aussi il y a une espérance. La Bible appelle cette espérance une espérance bénie, une bienheureuse espérance. Et tant que ce sont des choses que la Bible nous promet par la foi sur cette terre dans notre vie chrétienne, par exemple la guérison divine, le baptême du Saint-Esprit, la prospérité, etc., voir la prédominance sur nos ennemis ou toutes sortes de circonstances, tout ça, ça dépend de ta foi. Par contre, il y a des événements prophétiques qui ne dépendent pas de ta foi. Si tu as été sauvé, c'est parce qu'un jour tu as cru. Donc Dieu avait tout fait en Christ. Un jour tu entends l'évangile, tu crois parce que tu as un cœur ouvert, et là tu rentres dans le royaume de Dieu. Ça, c'est ta foi. C'est ta foi. Par contre, il y a des événements prophétiques où ta foi n'a rien à voir. C'est la souveraineté totale et absolue de Dieu qui se manifestera. Par contre, il faut savoir quels sont ces événements prophétiques. Le jour où on va mourir, on va où? Qu'est-ce qu'il y a après? La Bible parle de l'enlèvement de l'église, de la résurrection des morts, parle de la tribulation, parle de certains malheurs sur la terre, parle du millénium, parle de nouveaux cieux, nouvelle terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va avoir à faire là-dedans?
Ça, il faut le savoir.
C'est notre responsabilité de le savoir, parce que Dieu l'a écrit dans sa parole. Par contre, toutes ces choses, c'est la souveraineté du Seigneur.
Mais
c'est ça qui est extraordinaire avec lui. La souveraineté de Dieu va nous amener dans ces événements prophétiques. Par contre, il faut les connaître.
Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'abord de prévenir ceux qui sont encore sous la colère de Dieu. D'être motivés pour travailler pour le royaume de Dieu. Et aussi, ça nous permet de savoir ce qui va se passer. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit des ignorants. Vous savez, dans ce livre, il y a des choses extraordinaires. Quand on sait l'étudier, quand on sait s'attacher à l'étude de la parole, à la méditation de la parole, on peut découvrir des choses absolument extraordinaires. La Bible, c'est ennuyant quand on n'a pas un minimum de connaissances. Ou des fois même, ça peut faire peur. D'autres fois, ça, on se dit, mais je comprends rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de connaissances au démarrage. C'est très important d'avoir une connaissance de la parole de Dieu qui nous permette après, quand on lit les passages, de savoir de quoi veut-on parler. La Bible nous parle de plein d'événements prophétiques et ce matin je vais vous faire un brossier, une espèce de tableau. Vous savez, si vous avez une grande image devant vous et que vous vous approchez beaucoup de cette image, admettons qu'elle soit là, qu'elle soit immense, plus vous vous approchez, plus vous pouvez voir des petits détails. Ça, c'est bien quand on étudie quelque chose sur la parole de Dieu, très précis. Par contre, quand tu es prêt, tu ne vois pas l'image d'une manière générale. Pour voir l'image d'une manière générale, et te rendre compte par exemple d'un grand tableau qui a été peint et l'apprécier, il faut que tu prennes du recul. Quand tu prends du recul, là tu peux voir l'image en général. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire. Donc on va étudier certaines choses dont la parole de Dieu nous parle, notre espérance d'une manière générale. Regardons dans Tite chapitre 2. On va lire donc chapitre 2, Tite 2, 11 à 13. C'est juste avant Hébreux, Philémon. Donc Tite chapitre 2, versets 11 à 13. Voilà ce que Paul va écrire. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne pour aujourd'hui à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire à l'éloignement de Dieu, au désir de ce monde, au péché de ce monde, et à vivre dans ce siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, c'est-à-dire en s'attachant au Seigneur. En attendant, regardez bien verset 13, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus.
Buzanira abantu bose agakiza butwigisha kwikunkumura ukutubaha imana no kwifuza iby'isi bukatwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha imana mu gihe cya none kwitega ibyizigiro by'amahigwe no kuzoseruka kubwiza bwa Yesu Kristo niwe mana yacu ihambaye n'umukiza.
Alors pourquoi est-ce qu'au verset 13 Paul parle de la bienheureuse espérance que nous attendons? Qu'est-ce que c'est que cette bienheureuse espérance? Dans quoi nous allons être impliqués prophétiquement? Parce que la Bible parle de prophéties. Des prophéties qui annoncent à l'avance des événements. Est-ce que ces événements doivent nous faire peur? Par quoi allons-nous passer? Etc, etc. J'ai souvent des questions là-dessus. Des gens vont lire par exemple Matthieu 24 et 25 où Jésus parle de guerre, de bruit de guerre, de gens qui vont crier, ils préféreront mourir que des montagnes leur tombent dessus plutôt que de subir certains événements. Une personne va être prise, l'autre va être laissée. Quand je lis l'Apocalypse, waouh, je vois des coupe de la colère de Dieu qui fonde sur la terre. Plein de gens qui meurent.
Waouh.
Guerre, bruit de guerre, le feu qui prend, qui détruit des gens, etc., etc. En masse. Des gens qui sont frappés de plaies terribles.
Et
puis je lis le prophète Daniel.
Qui
a déjà lu le prophète Daniel ici?
Bah,
des fois ça fait un peu peur quand on lit le prophète Daniel. On se demande de quoi il veut parler. Il a des révélations sur des choses.
C'est
compliqué tout
ça.
C'est pas très compliqué, mais il y a des choses à comprendre.
Et
la Bible nous montre clairement que nous ne devons pas être ignorants. C'est dans l'épître aux Thessaloniciens, nous allons lire tout à l'heure. Mais d'abord, il faut que je vous explique certaines choses. Ce matin, je vais, vous savez, je suis obligé dans l'église de vous donner de temps en temps des enseignements sur la fin des temps. Mais c'est toujours un peu difficile parce que certaines personnes, vous n'avez aucune appréhension, il y a des choses que vous n'en avez même pas entendu parler. Mais de temps en temps, vous entendez un truc, un machin, et on dit ah, c'est l'apocalypse. À la télévision, j'ai vu, il y a eu tel tremblement de terre, il y a eu tant de morts. Est-ce que c'est l'apocalypse?
On entend
parler de mots, la tribulation.
Wow, alors,
on se dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je
ne comprends rien.
Donc ce matin, je vais vous donner des grandes lignes.
Parce
que vous devez être instruit dans la parole
de Dieu.
Sur ce qui va se passer.
Qu'est-ce
que vous allez subir? Ou pas? Par rapport à certaines paroles de l'écriture, est-ce que ça vous le concerne ou pas? Parce que la Bible en parle. Et tout ce que la parole de Dieu me dit, est-ce que ça va me concerner directement? Est-ce que ça s'adresse à d'autres personnes? Etc, etc. Alors il va falloir comprendre plusieurs choses. D'abord, il faut que vous sachiez que Dieu a expliqué, a donné des révélations sur la fin des temps à Israël. Israël, dans le cœur de Dieu, a une promesse. C'est que ça deviendra la nation numéro un du monde un jour. Et pour l'instant, on voit qu'Israël n'est pas la première nation du monde.
Ah,
vous allez me dire, oui, Israël c'est gentil, mais moi je suis Burundais ou je suis au Burundi, Israël ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des fanatiques d'Israël, des chrétiens qui ne s'intéressent qu'à Israël. Et ça, c'est trop, je dirais, c'est vraiment complètement déséquilibré. Mais il faut le dire, Israël a un rôle prophétique très important.
Donc,
il faut voir dans quel domaine ça nous concerne.
Il ne
faut pas être un fanatique, mais il ne faut pas non plus être un ignorant.
Être
donc, Israël a reçu des promesses. Israël a désobéi. Et alors ces promesses, pour un temps, parce que Dieu les a châtiés et les a jugés,
eh
bien ces promesses, pour un temps, ont été gelées. Et le prophète Daniel va recevoir des révélations extraordinaires. Et c'est pour Israël. Et il y a différentes prophéties qui vont annoncer un temps où Israël sera la nation numéro 1 du monde, que le Messie va régner à Jérusalem et qu'un jour Dieu va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Israël a ces promesses là mais Dieu va donner aussi à Daniel un temps particulier au niveau des prophéties. Et Daniel va recevoir une révélation. Je
ne
vais pas vous en donner toutes les explications là avec les versets, mais je vais vous expliquer un peu en gros ce qu'il en est. Daniel va recevoir une révélation. Daniel, lui, c'était un prophète qui avait été emmené en Irak, en Mésopotamie, si vous voulez. Il était prisonnier, déporté, dirions-nous. Cette histoire, mais Israël avait tellement désobéi
que
au 6e siècle avant Jésus, Israël a été emmené captif. Et il y a eu des étrangers qui sont venus habiter le territoire d'Israël. Et au bout d'un moment, Dieu a fait une promesse de restauration
pour...
et a donné au prophète Daniel une prophétie sur 70 semaines d'années, c'est-à-dire 70 fois 7 années, c'est-à-dire 490
ans.
Okay. 70 semaines d'années. Ok, ce qui fait 70 fois 7 années.
Et 7 fois 7, 49,
ça fait donc 490 ans. Donc cette prophétie va s'accomplir sur un temps de
490
ans. Et Dieu lui révèle une chose. Quand il va y avoir une ordonnance comme quoi on va pouvoir reconstruire Jérusalem qui avait été détruite, c'est le début de ces 490 ans qui va commencer. Et en fait, il va se passer quelque chose. Dieu va lui révéler qu'au bout de 483
ans,
le Messie va être retranché. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est Jésus qui va mourir à la croix. Et Daniel avait reçu une prophétie qui montrait qu'à partir du moment où il y avait la reconstruction de Jérusalem, et vous trouverez donc ce début de cette reconstruction dans Néhémie, à ce moment-là, quand un roi, c'est un roi perse qui va donner l'ordre de reconstruire Jérusalem, Daniel savait, d'après les prophéties, au bout de 483 ans, le Messie serait enlevé, retranché. C'est-à-dire que Jésus allait mourir. Donc Daniel avait l'année où
Daniel
le Messie allait mourir. Il l'avait reçu des siècles plus tôt. Mais ce que les Israélites ne savaient pas, c'est qu'au bout d'un moment, quand le Messie allait être retranché, il y aurait l'ouverture de la grâce, ça serait le temps de l'Église. Dieu marche avec ce qu'on appelle des temps, ou ce qu'on appelle en théologie des dispensations. Qu'est-ce que c'est qu'une dispensation? C'est un temps où Dieu fait alliance avec des hommes ou un peuple. Par exemple, je vais vous expliquer. Dans la doctrine biblique, les théologiens disent qu'il y a 7 dispensations. Donc 7 temps particuliers qui vont durer, certains vont durer jusqu'à 1500 ans, même plus. Où Dieu fait des alliances avec les hommes. Par exemple, vous vous rappelez de cette histoire avec Adam et Ève.
Adam et Eve,
Dieu les met dans le jardin. Ils sont parfaits. Communion parfaite. Tout est parfait. Pas de maladie, pas de pauvreté, pas de problème, rien. Tout est parfait. C'est ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Ça aurait pu durer jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Adam et Ève vont faire? Ils vont pécher. Donc Dieu va être obligé de démarrer une nouvelle dispensation avec l'homme. C'est ce que les théologiens appellent la dispensation de la conscience. Adam et Ève sont chassés du jardin.
Adam et Ève va couper mon iton quoi d'Eden.
Dieu est obligé de leur expliquer maintenant comment ils doivent faire pour s'approcher de lui.
Et maintenant ils vont s'ouvrir. Ingé ne va couper qu'aux autres quand ils vont se retrouver.
Ils ont perdu tous les privilèges.
Batakaza, ils vont arriver mais le web d'Ose.
Et ils vont donc les êtres humains vont se développer.
Ah, mais bacha batangura guter imbere.
Et ils vont être dans cette dispensation de ce qu'on appelle la conscience.
Mazebari muri chogie chukume nyarero.
Et pendant 1500 ans jusqu'au déluge.
Mazerero imyaka igomina majantano kuva ku muzure wo kuri Noah.
Les hommes vivent bah comme ils ont envie de vivre.
Abantu babaho muri
selon ce qu'ils ressentent. J'ai envie de faire ça, je fais ça. J'ai pas envie de faire ça, je fais pas ça. Et ça va durer 1500 ans. Et au bout d'un moment, Dieu dit maintenant ça suffit. Le cœur de l'homme est pourri. Personne ne me cherche. Et sur tous les habitants de la terre, combien il y en avait-il? On ne savait pas exactement. Mais il ne trouve qu'une seule famille qui le sert. C'est la famille de Noé. Dieu détruit toute la surface de la terre par l'eau. Noé sort de l'arche. Et Dieu va recommencer une autre dispensation. Donc un temps particulier encore. Ça va être le gouvernement humain. Il n'y a qu'une seule nation qui repart à partir de Noé et qui va se multiplier sur la terre. Et au début, ils veulent tous rester ensemble. Dieu est obligé de confondre leur langage. Et la connaissance de Dieu n'est pas en train de s'établir sur la terre. Et ça va durer 400 ans ça. Et après Dieu va trouver un homme selon son cœur qui s'appelle
Abraham.
Et là une autre dispensation va commencer. C'est la dispensation de la promesse. Dieu va faire une chose avec cet homme. Il va lui faire une double promesse. Il va y avoir surnaturellement deux races qui vont sortir de cet homme Abraham. La première race ça va être surnaturel par un miracle de Dieu. Au travers du sein d'Abraham, il va sortir les Juifs. La nation d'Israël. De laquelle va sortir le Messie. Mais aussi Dieu lui fait une promesse.
Il
va sortir de lui aussi.
D'Abraham.
Une postérité spirituelle. Surnaturelle. C'est l'église de Dieu. Donc Dieu fait cette promesse et la dispensation de la promesse va durer 400 ans. Ensuite une autre dispensation va s'ouvrir. Israël terrestre est suffisamment gros mais il est en captivité. Et Dieu par des miracles fait sortir ce peuple. Le réunit pour l'emmener vers un pays de la promesse qu'il avait promis à Abraham 400 ans plus tôt. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va donner une loi. Et ça va être la dispensation de la loi. Qui va durer 1500 ans. Là, Israël est confronté à un code. Tu dois faire, tu ne dois pas faire.
Et
Israël va lamentablement désobéir. En montrant que l'homme ne peut pas servir Dieu avec une loi. Et cette dispensation va s'arrêter. Une nouvelle va s'ouvrir. C'est le temps où nous sommes. Le temps de l'église qui dure d'ailleurs depuis 2000 ans et qui se terminera par un événement particulier, la première résurrection. On va en parler dans quelques minutes avec l'enlèvement. Ce sont deux événements conjoints. Alors, je vous explique ça parce que dans tout l'Ancien Testament et dans les Évangiles, si vous lisez des événements qui concernent les prophéties, le temps de la grâce, la dispensation de l'Église de la grâce est caché. C'est caché à ces prophéties. Et c'est Paul qui va nous dire dans Éphésiens chapitre 3 quelque chose qui est très important. Et il va nous montrer qu'il a reçu des révélations sur ce mystère de ce temps particulier qui est le temps de l'Église. Paul va écrire au chapitre 3 au verset 3 d'Éphésiens: c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, par ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage et forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu le serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable de Christ. Et regardez bien ce qu'il va dire au verset 9. Il va dire: et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Verset 9, tu peux
commencer. No guserurira bose ububwiriza bw'ibanga ubwo aribwo yaririshijwe uherekera hose mu mana umuremyi wa byose.
Donc en fait, Paul dit ici une chose.
Qu'il
a reçu une révélation,
mystère
étant une connaissance cachée.
Et il
a reçu la révélation sur ce mystère du temps où nous sommes, qui est de l'Église. Vous savez, quand vous lisez les prophéties pour Israël, Israël nous parle que le Messie va venir les délivrer. C'est pour ça d'ailleurs que dans les évangiles plusieurs fois les disciples disaient: mais c'est dans ce temps là que tu vas venir établir le royaume de Dieu.
Et Jésus disait:
c'est pas maintenant, il y a quelque chose entre temps, c'est l'Église, c'est-à-dire c'est ceux qui accepteront la grâce de Dieu, qui seront de souche païenne principalement, c'est-à-dire de ceux qui n'étaient pas de la postérité d'Abraham, à qui Dieu donne une chance. C'est vous et moi, frères et sœurs. Et alors, Dieu avait caché ces choses dans l'Ancien Testament, dans les Évangiles. Maintenant, dans les Épîtres, il y a quelque chose qui nous est révélé. Quelque chose qui est puissant. On nous révèle le temps de l'Église. Et on nous dit: Jésus va venir. Jésus va venir. Oui, mais attendez, quand on lit dans l'Ancien Testament, oui, Jésus va venir aussi. À Jérusalem, délivrer Israël à un moment particulier, on va en parler. Et en fait, on s'aperçoit que le Nouveau Testament nous enseigne une chose. Que Jésus va venir deux fois. La première venue et la deuxième venue. La première venue de Christ, c'est Paul qui nous révèle ce qui va se passer dans 1 Thessaloniciens chapitre
4.
C'est le premier événement auquel nous aurons tous affaire. Ta foi ne peut pas précipiter cet événement. Le fait d'avoir été sauvé t'amène obligatoirement dans cet événement prophétique. Ça s'appelle la première résurrection et l'enlèvement de l'Église. Regardez ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Vous savez, Dieu nous donne des richesses dans sa parole. La parole de Dieu a été écrite pour notre instruction, frères et sœurs. La parole de Dieu n'a pas été écrite juste pour avoir un joli livre qu'on amène le dimanche matin à l'Église. Loin de là. Au verset 13, Paul nous dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance ignorance au sujet de ceux qui dorment ou qui sont morts en Christ, si vous préférez, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
Wariko bene data ku murongo wa 13 ntugomba yuko muyobegwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu ngo ntimubabare nk'abandi badafise byizigiro.
Donc Paul nous dit clairement nous ne devons pas être ignorants de ces choses.
Ah Paul atubwira ngo ntitube abantu bayobewe ivyo bintu babi.
Je sais qu'il y a des gens qui passent, il y a certains ministères qui ne passent leur vie que à étudier l'Apocalypse et la fin des temps.
Dazikwaro abakozi imana bamwe bamwe bamara ubuzima bwabo bwose bigisha kwijanye n'ibyahishura Yohana.
Certains vous avez entendu parler du mot eschatologie, bah c'est la fin, l'étude de la fin des temps, l'eschatologie.
Bamwe mnabaze kumva ijambo bavuga ngo eschatologie no kwiga ibihe byanyu.
Et Paul nous dit non, vous devez pas être ignorant.
Paul avuga ati ni mukwe ko abantu babiyobegwa.
Parce que sinon vous allez vous attrister. Un chrétien qui meurt, c'est une délivrance de son corps.
Maintenant,
où va-t-il? Qu'est-ce qu'il va subir, etc. C'est intéressant de le savoir. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui ceux qui sont endormis, nous dit littéralement la parole de Dieu. Voici en effet, nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, un signal donné par la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors ici, Paul nous explique une chose simple. Il nous dit qu'il va y avoir un événement particulier. Cet événement, c'est quoi? D'abord, les morts en Christ vont ressusciter. Ensuite, il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Où sont les morts en Christ? Quand une personne meurt, elle va directement auprès du Seigneur à la droite du Père. Le Seigneur est à la droite du Père au troisième ciel.
Donc,
nous allons directement au troisième ciel. Maintenant, la Bible nous dit qu'il y a un moment prévu par Dieu, selon sa souveraineté, où tous les morts en Christ vont redescendre et ressusciter, c'est-à-dire revêtir un corps incorruptible. Nous, si on est encore ici, on sera aspiré et notre corps sera instantanément changé avec un corps glorifié. C'est ce que la Bible nous révèle. Vous le vivrez, frères et sœurs. Soit première résurrection, soit enlèvement.
Donc,
que ce soit l'église au ciel ou l'église en bas, obligatoirement, elle va passer par cet événement conjoint. Les morts en Christ ressuscitent en premier. Ceux qui sont encore vivants dans leur corps sur la terre, ils sont enlevés. Et Dieu béni, parce que rappelez-vous d'une chose, jusqu'quand le Messie est retranché, Israël a rejeté le Messie et l'horloge prophétique pour Israël s'est arrêtée. Rappelez-vous que la prophétie de la fin des temps doit durer 490 ans. Elle s'est arrêtée à 483 et il reste 7 ans à accomplir dans le temps prophétique de Dieu pour Israël. Lorsque le Messie est retranché, c'est-à-dire que Jésus meurt à la croix, l'horloge prophétique pour Israël, clac, s'arrête. La dispensation de l'Église commence. Jusqu'à temps que la dispensation de l'Église commence, la dispensation de la grâce, les gens sont sauvés, Israélites et non-Israélites, mais le temps prophétique pour Israël est toujours arrêté. Là, ça fait 2000 ans que l'horloge prophétique pour Israël est arrêtée. Au moment où Jésus va être ordonné pour être renvoyé pour chercher son église et qui est la première résurrection d'abord, alors l'horloge prophétique pour Israël va se remettre en marche. Nous serons avec le Seigneur, ce qui ne veut pas dire que nous serons toujours au ciel. Tous les rachetés pendant toute la dispensation de la grâce et les saints de l'Ancien Testament qui sont nés de nouveau
quand
Jésus est ressuscité, alors nous aurons notre corps glorifié comme Jésus avait son corps glorifié à sa résurrection, et nous serons pour l'instant au ciel. Nous allons y rester 7 ans.
Mais
entre temps, il va se passer plein de choses.
Il
y a un autre texte qu'on n'a pas eu le temps de lire, mais qui est dans 1 Corinthiens 15 pour la résurrection d'entre les morts. Pourquoi est-ce que Dieu fait cela et pourquoi est-ce qu'on sera au ciel avec notre corps pour l'instant?
Glorifié.
Pendant 7 ans. Parce que pendant 7 ans, il va y avoir ce que la Bible appelle la tribulation. Et la Bible est claire là-dessus. Dans Thessaloniciens 1:10, Dieu nous montre quelque chose d'important. On va lire à partir du verset 9. Paul nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et regardez bien, verset 10, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de quoi? De la colère à venir.
Abite Thessaloniki gice cy'ambere murongo w'icyenda kuko bose bivugira ubwabo inkuru z'ingene twaje muri mwebwe kandi ingene mwahindukira imana mugaheba ibigwa mana ngo mukorere imana nyakuri kandi nzima kandi ngo mwitege umwana wayo kwava mwijuru umwe yazura imukuye mu bapfuye ni Yesu adukiza uburake bugira buze.
Alors ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes délivrés de la colère à venir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Oui, avec tout ce qui se passe sur la terre. C'est Dieu qui commence à juger la terre. C'est les événements apocalyptiques, etc., etc. Nous ne sommes pas dans ces temps-là. Ce que la terre subit aujourd'hui, ce n'est quasiment rien.
Et
je le dis, malgré tout ce qu'on voit d'horrible, par rapport au moment où Dieu dira maintenant ça suffit. Pour l'instant c'est le diable qui fait des histoires, mais Dieu viendra juger la terre. Dieu viendra juger les hommes. Et si vous lisez vers le milieu de l'Apocalypse, je vous garantis, ça va chauffer. Dieu va détruire une bonne partie des hommes. Il va envoyer ses jugements. Parce que les hommes auront refusé d'accepter sa grâce. Lorsqu'il va y avoir la première résurrection et l'enlèvement, je vous dis une chose, malheur à celui qui sera encore ici. Et il y a des gens, ils auront entendu l'évangile, ils ne seront pas convertis. Ils vont se convertir pendant la tribulation. Ils vont dire, ah, mais effectivement, ces chrétiens avaient raison. Ils nous parlaient de ce qui allait se passer et ça s'est passé. Imaginez-vous, on estime au ciel qu'il y a à peu près 500 millions d'êtres humains.
Ce sont
des estimations, d'accord. On estime qu'aujourd'hui sur la terre, l'église représente aussi à peu près
500
millions. Donc quand Jésus va revenir, la première venue pour son église, que les prophéties pour les Israélites ne voient pas rien dans l'Ancien Testament, rien dans les évangiles. En fait, il y a 500 millions de tombes qui vont s'ouvrir. Et il y a 500 millions de personnes qui vont disparaître. Donc ça va quand même faire un grand coup sur la terre. Et il y a des gens qui diront, effectivement, les chrétiens avaient dit la vérité. Le message qu'il y a dans la Bible est vrai. Et ils vont commencer à se donner à Dieu. Mais, beaucoup de difficultés pour ces gens-là. Ça va être terrible. Parce qu'ils vont rentrer dans un temps où la colère de Dieu va se déchaîner sur la terre. Il va y avoir d'abord de grandes catastrophes économiques. Et dans ces catastrophes économiques, les gens vont chercher une solution. Et il va y avoir un certain antichrist, sachant que pendant ces 7 ans, il y aura la moitié où ça va être la tribulation et l'autre moitié ce que la Bible appelle la grande tribulation, ça va être terrible. Dans cette première partie, les hommes vont souffrir, les jugements de Dieu vont commencer à s'étendre et les hommes vont crier, ils vont maudire Dieu de plus en plus. Beaucoup vont essayer de vouloir éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. ceux qui se convertiront vont mourir sur le champ quand on saura qu'ils ont été sauvés. Et il y aura un homme qui s'appelle l'Antichrist, qui d'après certains commentateurs bibliques disent qu'il sera de souche juive de la tribu de Dan. C'est une des tribus des douze fils de Jacob. Et il va grimper, monter, être à la tête de 10 nations puissantes. Il va d'ailleurs en écraser 3. Et il va prendre le leadership d'un gouvernement mondial qui va monter en très très peu de temps. Et il va vouloir éradiquer la connaissance de Dieu totalement sur la terre. Puis il va se diriger contre Israël pour détruire Israël. Nous ne serons pas là, nous serons au ciel. La tribulation de manière générale, nous ne subirons rien. Mais sur la terre, il va y avoir beaucoup de gens qui vont mourir. Celui qui osera prononcer le nom de Jésus sera mis à mort immédiatement. La Bible parle de ceux qui se sont fait massacrer parce qu'ils vont devenir chrétiens pendant ce temps. Donc pendant la tribulation, il va y avoir des gens qui vont naître de nouveau. Israël sera toujours endurci. Mais à la fin de la grande tribulation, à la fin de ces 7 ans, alors il va y avoir des paroles qui vont s'accomplir, des paroles prophétiques. Israël va être tellement, tellement désespéré. Ils seront au bord de la faillite totale. Les plus puissantes armées du monde seront aux portes d'Israël, à éradiquer le territoire d'Israël de la surface de la terre. C'est alors qu'ils vont crier à Dieu. Ils vont crier à Dieu. Et Jésus va répondre. Il va descendre, deuxième venue. C'est la deuxième venue dont vous entendez, quand vous entendez parler de la venue sur la terre du Messie dans l'Ancien Testament, c'est la deuxième venue.
Même
chose pour les évangiles. Par contre, quand vous entendez de la venue de Christ pour l'Église, c'est la première venue, c'est l'enlèvement. Dans les Épîtres.
C'est pour
ça qu'il faut que vous compreniez un peu un minimum de choses. Je suis obligé de vous expliquer des choses. Donc Israël, au bout de ces 7 ans, va être désespéré, va crier à Dieu. Jésus va venir avec ses saints. On sera là. Et l'Antichrist va être écrasé. Et en attendant, beaucoup d'Israélites vont se convertir. Mais il va y avoir une immense bataille que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Et là, ce qui va se produire, c'est que les Israélites en masse vont se donner au Seigneur. Ils vont reconnaître celui dont ils ont percé les mains et les pieds, nous dit la Bible. Vous trouvez ça dans Zacharie. Et en fait, Jésus va se débarrasser de l'Antichrist. Et après, il va y avoir le millénium qui va être établi. Une nouvelle dispensation. La dispensation du millénium. Entre temps, pendant ces 7 ans, alors que nous sommes, nous, dans le ciel, nous allons passer, c'est dans Romains 14, devant un jury de récompense. Et là, c'est très important aussi à saisir, parce que vous devez comprendre un principe important pour votre vie spirituelle. Rappelez-vous, la parole de Dieu a été écrite pourquoi? Pour notre instruction. Pour notre instruction. Pour que nous puissions connaître des choses, non pas craindre.
Mais connaître.
Et aussi vivre notre vie. pour que justement de plus en plus il y ait, nous vivions à la gloire de Dieu sachant ce qui va se passer. Nous ne pouvons pas dire ah Seigneur je ne le savais pas, le Seigneur dira non c'était dans ma parole. Regardons dans Romains chapitre 14 et à partir du verset 8 il est dit car si nous vivons nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons nous mourons pour le Seigneur, soit que nous vivions soit que nous mourions nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ.
Kumurongo munana baroma 14 namba turiho kuba abo mwami kandi namba dupfa dupfira kuba abo mwami nuko namba turiho canke namba dupfa turabo mwami kuko icatumye Christopher akazuka ari kugira ngo abe umwami wabapfuye kandi nuwabariho ariko weho niki gituma uhinyura mwene so kandi nawe niki gituma ukengera mwene so kuko twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana.
Alors le tribunal ici c'est pas tellement une belle expression.
Intebe y'imanza y'Imana hano sineza ni
C'est un mot grec qui veut dire littéralement jury de récompense. Et une récompense, ça se gagne. Le salut est gratuit. Personne d'entre nous, nous avons payé pour notre salut. C'est la grâce de Dieu. Tu entends le message de l'évangile. Tu te repens. Tu sais qu'il a payé pour tes péchés. Tu dis Seigneur, pardon. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et le ciel est garanti et les événements prophétiques sont garantis pour toi. Gloire à Dieu, c'est notre sécurité éternelle. Par contre, passer devant le tribunal de récompense, ça va dépendre de ce que tu auras fait. Il y a plusieurs passages qui nous en parlent. Plusieurs passages, on ne pourra pas tous les lire malheureusement. Mais brièvement, dans 1 Corinthiens 3, Paul nous avertit. Il nous parle d'une fondation qui est Christ. Et au verset 11, il est dit 1 Corinthiens 3, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, c'est-à-dire sur Christ subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ici, on parle de récompense. Donc, Dieu nous prévient. Recevoir Jésus, tu bâtis, tu as une fondation, d'accord. Cette fondation est inébranlable, personne ne peut l'enlever. Par contre, tu vas bâtir sur cette fondation. C'est-à-dire que tu bâtis ta vie chrétienne. Et à ce moment-là, tout va dépendre comment tu vas bâtir les choses. Et au tribunal de Christ, Dieu éprouvera chacune de nos œuvres. Ce que tu as porté comme fruit. Les âmes que tu as amenées au Seigneur. Les prières que tu as faites et où tu as vu des fruits. Ce que tu as fait pour servir le Seigneur. Dans ce qu'il t'a demandé. Non pas des titres, des trucs et des machins que toi tu as initiés. Mais seulement ce qu'il t'a demandé de faire et que tu auras fait par obéissance. Et là, le Seigneur te récompensera. Il y aura toutes sortes de récompenses. Pourquoi des récompenses? Parce qu'après, il y a un règne à exercer.
Et
Jésus va venir régner avec ses saints. Et ses saints, c'est vous et moi. La Bible nous parle que quand nous aurons un corps, qu'il y a différents éclats, nous pouvons briller de différentes manières de la gloire de Dieu, plus ou moins. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, vous verrez. Et à ce moment-là, bien, plus nous aurons marché avec le Seigneur et nous aurons fait des choses pour Dieu, plus notre récompense sera grande, plus nous brillerons de la gloire de Dieu et nous aurons des responsabilités dans le règne à venir.
gihe kizoza.
Ce que tu construis aujourd'hui,
icyo wubaka uyu munsi,
c'est ce que tu seras demain.
Nicyo uzobura ejo.
La Bible nous avertit.
Bibiliya iratugabisha.
La Bible nous donne de l'intelligence, frère César.
Bibiliya iduha ubwenge bene data.
Maintenant, c'est chacun qui doit savoir ce qu'il fait.
Ubu rasigaye umwe wese amenye icyo
arikora. Paul parle plusieurs fois de couronne aussi.
Paul aravuga kenshi bijanye n'ibitsibo.
Regardons ensemble 1 Corinthiens 9. La Bible, c'est Paul qui nous en parle. Il dit, 24 on va lire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose d'espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour recevoir une couronne incorruptible. Moi je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre de l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Paul ici nous parle de couronne incorruptible. Et vous avez plein de passages où la Bible nous parle de couronne dans le Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse, Jésus dit, fais attention que personne ne vienne prendre ta couronne, ta récompense. Et pour ça il y a des règles. Paul compare ici à une compétition dans un stade. Moi j'aime bien regarder l'athlétisme à la télévision, je trouve ça super. Il y a des championnats d'athlétisme au Japon. Et alors, et en fait, c'est vraiment intéressant de voir la discipline qui est imposée aux athlètes. Moi, je suis toujours vraiment passionné par ça, en voyant une personne qui va concourir des fois pour quelques dizaines de secondes. Des gens qui sont là, qu'on met dans un certain cadre, qui doivent sauter dans certaines, je dirais absolument en un certain nombre de temps, qui doivent sauter avant, ils ont 30 secondes, je sais pas combien, pour faire leur saut. Ils doivent pas dépasser certaines limites qui leur sont imposées physiquement, etc. Toutes sortes de trucs, ils doivent porter certains types de maillots, ils doivent se mettre comme ça et pas comme ça, enfin etc. Toutes sortes de règles. Sinon ils sont éliminés. Ta performance n'est pas valable. Ils courent selon des règles. Et toi aussi tu dois courir selon les règles du royaume de Dieu. Et si tu le fais, alors tu te prépares une récompense dans le ciel. Ta couronne t'attend. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils courent dans les stades, on les voit. Il y a des gens, ils sont favoris, alors ils sont là, ils se préparent pour la course, tout ça. Et c'est la finale. Et manque de chance, ils sont quatrième. Et c'est les trois premiers qui ont des médailles. Vous savez que la quatrième place, c'est une des pires places dans les finales de Jeux Olympiques.
C'est
terrible d'être quatrième. Parce que vous passez juste à côté de la médaille. Ou alors il y en a, on les voit. Ils ont couru, par exemple, ils ont fait une course de vitesse. Ils pensaient arriver le premier. Et ils se retrouvent troisième. Et alors le premier, il est tout content parce qu'il ne s'y attendait pas. Le deuxième le salue. Ah, super, bravo.
Et le
troisième qui est là,
qui pensait gagner,
il passe à côté et puis il fait. Voyez, nous sommes dans une course, frères et sœurs. Nous avons des règles. À chacun de le savoir. C'est là, dans le tribunal de Christ, que tu seras récompensé. Donc, à la fin de la tribulation, on va entrer dans cette nouvelle dispensation. Et nous serons tous ensemble. Nous aurons notre corps ressuscité. Et là, le diable, juste à la fin de la tribulation,
Alors Satan
il va être enchaîné. C'est ce que nous dit l'Apocalypse. Lisez les derniers chapitres de l'Apocalypse, ça nous explique tout ça. Et en fait, on s'aperçoit que le diable va être enchaîné et que les démons aussi. Et là, il y a une période de 1000 ans où Dieu va accomplir sa promesse à propos d'Israël. Le Messie qui règne à Jérusalem et Israël qui est la nation numéro 1 du monde entier et qui dirige le monde. C'est normal, il y a Jésus. Mais on sera là aussi, frères et sœurs, à régner avec lui. C'est ce que la Bible nous dit. Et il faut savoir que pendant ces 1000 ans, il va y avoir une immense paix sur la terre, une prospérité sans égale sur cette terre. Cette terre va fleurir de partout et il n'y aura plus de problème sauf à la fin. Et c'est là où les interprétations un peu divergent des théologiens. Parce que pendant la tribulation, il semblerait, d'après certains textes, qu'il va y avoir des gens qui vont accepter le Seigneur. Certains pensent que tous les juifs qui vont accepter le Seigneur et les païens qui vont accepter le Seigneur pendant la tribulation vont ressusciter juste à la fin de la tribulation, au début du millénium. Et ce sera la deuxième phase de la première résurrection, c'est prophétisé dans Daniel. Mais pendant 1000 ans, il va y avoir apparemment sur la terre des gens qui vont naître. Parce qu'à la fin des 1000 ans, il va y avoir le diable qui va être relâché, qui va arriver à séduire certaines nations, alors que nous serons ressuscités avec un corps glorifié. La nature de la chair ne sera plus jamais en nous n'aurons plus aucune possibilité de pécher. Donc Satan va utiliser des personnes qui ne sont pas nées de nouveau et qui vont se rebeller une dernière fois contre Dieu, et là Dieu va écraser ces gens. Nous serons là, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable va être mis hors d'état de nuire. À la fin de cette dispensation, il va y avoir la deuxième résurrection. La deuxième résurrection concerne tous ceux qui ont été en enfer, qui vont sortir de l'enfer. Dieu va les ressusciter. La Bible nous montre qu'ils vont passer devant un trône, le grand trône du jugement de Dieu. Ils vont être jugés et condamnés selon leurs œuvres. Ils seront tous condamnés à la seconde mort. La Bible dit aussi que nous jugerons les anges et nous l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Christ. Et on peut certainement interpréter que ce sont les anges déchus, bien sûr. Donc après ce jugement dernier, Dieu va faire quelque chose. Regardez dans Hébreux 11, il y a une belle image ici. Il faut que vous le sachiez, frères et sœurs, ça fait partie de votre culture générale sur la parole de Dieu, sur les événements prophétiques. Au verset 10 chapitre 1 des Hébreux, il est dit: encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés comme un vêtement. Mais toi tu restes le même et tes années ne finiront pas. C'est le point final de tout. Dieu va venir détruire la surface de la terre. J'ai certains versets que je pourrais vous montrer par le feu. Il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais là, attention, le mot grec pour nouveau, c'est renouveler. La Bible ne dit pas que la terre va être détruite, les cieux vont être détruits complètement et que Dieu va
tout refaire à partir de rien.
La Bible
ne dit pas ça. La Bible nous dit qu'il va renouveler. Nouveaux cieux, nouvelle terre veut dire dans le grec littéralement renouvellement des cieux et renouvellement de la terre. Et là va s'accomplir une merveilleuse parole
qu'on
trouve dans Romains 8 aussi et la fin de l'Apocalypse, qu'en fait il va y avoir la révélation des fils de Dieu. Finalement, ce que Dieu voulait faire avec Adam et Ève, alors qu'Adam et Ève ont lamentablement échoué, il le fera avec nous, frères et sœurs. Il le fera avec nous pour l'éternité. Nous serons avec lui sur la terre, une terre parfaite, comme Dieu avait planté un jardin parfait, une relation parfaite avec lui, parce que le trône de Dieu va descendre sur la terre. Dieu ne sera plus au troisième ciel, mais il sera sur la terre, la terre ayant été parfaitement recréée dans sa surface. Et la Bible est très claire là-dessus. La Jérusalem céleste va descendre et se matérialiser sur la terre. Et nous serons là en train de servir le Seigneur. Plus de soleil, plus de lune, on n'aura plus besoin d'éclairage extérieur. Mais la gloire de Dieu nous éclairera. Tout sera parfait pour nous. Donc, en recevant Jésus comme sauveur personnel, nous avons fait le bon choix, vous en conviendrez. Vous en conviendrez largement. En ayant reçu le Seigneur, nous ne subirons pas la colère à venir. Et encore en plus, Dieu nous promet une espérance bénie, absolument fantastique, d'être avec lui pour l'éternité, sans avoir aucun problème et aucune possibilité de pécher. Et Dieu sera avec nous et habitera avec nous pour l'éternité. Nous serons dans la gloire, dans un bonheur parfait, total, absolu. Et vous voyez, il y a tout un plan ici. Ce que Dieu a voulu faire avec Adam et Ève et qui a échoué, ça va être parfaitement réussi avec vous et moi. Mais nous allons passer par ces différentes étapes. Résurrection ou enlèvement, tribunal de Christ pendant que la terre sera jugée, avec notre corps ressuscité, glorifié, nous allons retourner pour 1000 ans sur la terre, régner avec lui, la dernière bataille où les ennemis de Dieu vont être écrasés, résurrection des injustes, création de nouvelle terre, nouveaux cieux, et nous serons avec lui pour l'éternité. Que son nom soit béni. Amen. On va se lever, on va prier quelques instants.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.